Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'usage du logiciel libre au collège, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la veille sur la presse en ligne et aussi les raisons d'écrire des logiciels libres. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, april.org, vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec les références utiles que nous compléterons après l'émission en fonction des échanges. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes mardi 4 février 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, participer à la discussion pendant le direct, n'hésitez pas à rejoindre le salon web de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse libre à vous pour poser des questions ou réagir. Nous vous souhaitons une excellente écoute et nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Alors, nous allons donc commencer par la présentation dans quelques secondes de MetaPress, une extension pour Firefox qui permet de faire de la veille sur la presse en ligne. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le logiciel libre au collège avec trois invités que je présenterai tout à l'heure. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Véronique Bonnet qui portera sur les raisons d'écrire des logiciels libres. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Godu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Passe maintenant au premier sujet. Nous allons commencer par la présentation de MetaPress. MetaPress est une extension pour Firefox qui permet de faire de la veille sur la presse en ligne. Nous avons avec nous au téléphone normalement son auteur, Simon Descarpentries. Bonjour Simon.
Bonjour.
Oula, en t'entendant de loin, alors peut-être que la régie va monter un petit peu le son. Oui. Donc Simon, alors première question, MetaPress, bah, tout simplement, c'est quoi ?
Eh bien, comme tu l'as brillamment expliqué dans la présentation, c'est un outil qui sert à remplacer Google News pour faire de la recherche dans les journaux. C'est un méta-moteur de recherche qui vise la presse en ligne. Et il se présente sous la forme d'une extension pour Firefox. On peut installer du coup depuis le menu des extensions de Firefox en cherchant MetaPress. C'est le premier résultat qui arrive dans ce cas-là.
Parce que tu as parfaitement bien choisi ton nom pour le référencement dans les extensions Firefox. Alors justement, tu parles de Google News. Pourquoi avoir lancé ce projet alors, vu qu'il y a Google News ?
Puisque Google News existe déjà.
Ah oui.
Eh bien, ça remonte à 2013. En 2013, ça faisait 5 ans que je m'occupais bénévolement de la revue de presse de la Quadrature du Net. Une tâche qui était chronophage, mais d'une importance stratégique quand même pour l'association. Or, il était facile de constater qu'on avait besoin de Google News pour réaliser la revue de presse et que le reste du temps, ce qu'on trouvait concernant notre assoce via ce moteur de recherche, c'était de la critique de GAFA, mais en particulier de ce que faisait Google le reste du temps. Je trouvais qu'il y avait une espèce de dissonance cognitive à la fois dépendre de l'outil que l'on critiquait. Et j'ai commencé à travailler du coup sur une alternative que je voulais libre et décentralisée. En discutant avec Benjamin Bayard, par exemple, il expliquait que l'un des principaux défis du logiciel libre, déjà il y a 10 ans, c'était de trouver le moyen de remplacer les gros moteurs de recherche centralisés, parce que il est difficile d'obtenir la même pertinence dans les recherches avec quelque chose de distribué. Et je me suis rendu compte que sur ce domaine précis de la presse en ligne, eh bien, chaque journal dispose de son propre moteur de recherche. Chaque journal répond honnêtement quand on lui demande s'il a un contenu sur un domaine précis avec des mots-clés. Et la pertinence des articles entre eux, quand on en a plein sur le même sujet, c'est la date de publication. Et ça, n'importe quel ordinateur peut trier quelques centaines ou quelques milliers de résultats par date de publication. On n'a pas besoin de Google pour faire ça.
D'accord. Et donc, tu dis que l'idée, c'est en 2013. Et le lancement de la première version, quand est-ce que tu as recommencé à travailler concrètement dessus ? Parce que c'est récent, là, l'ouverture.
Oui. La version 1.0 en ligne installable, elle date de novembre dernier.
D'accord.
Et qu'est-ce que j'ai fait de 2013 jusque-là? J'ai pas bossé nuit et jour que sur ce projet-là, mais j'ai rencontré quelques petites difficultés techniques dès le début pour faire avec des outils simples comme un site web normal, réussir à obtenir ce fonctionnement. Depuis un site web normal, c'était compliqué. Et il a fallu tout ce temps pour que je m'assure que depuis une extension de Firefox, alors les contraintes techniques que je rencontrais étaient levées. D'accord. Et puis il a aussi fallu d'autres rencontres et des gens qui me réencouragent à travailler dessus, ce qui est arrivé en 2017. Et alors en 2017, j'ai travaillé 6 mois sur les deniers de ma société Acuro, sur ce prototype qui me tenait à cœur, puisque j'avais à la fois levé les contraintes techniques avec les évolutions du JavaScript et l'adoption des web extensions par Mozilla, et rencontré quelqu'un qui disait que peut-être il pourrait financer la chose. Alors je me suis sérieusement penché dessus. Et puis bah, ça a avancé pas mal, il y a eu des contraintes sur le financement, mais quelque chose est réarrivé en 2019, et c'est comme ça que fin 2019, le travail étant fait, l'extension est arrivée en ligne.
D'accord. Alors, on verra sur la question de financement à la fin. Tu parlais de la quadrature du net au début, donc de la revue de presse. Est-ce que tu as déjà prévu une intégration complète, un processus d'intégration complète de Métapresse dans un processus de revue de presse pour une association ou même pour n'importe quelle structure?
C'est bien le cas d'usage que j'avais en tête toutes ces années, l'ayant bien exploré et le maîtrisant sur le bout des doigts. J'ai rédigé, par exemple, toute la documentation de la quadrature sur comment faire la revue de presse. Donc, c'est quelque chose qui me tenait bien à cœur et j'ai pas beaucoup à faire d'efforts pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui fait la revue de presse d'une asso. Ça me vient naturellement. Et j'ai donc réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire pour automatiser les tâches de cette revue de presse qui, pour résumer, se sépare en plusieurs étapes. D'abord, il faut trouver les articles qui parlent de nous. Donc, il faut quand même soit faire le tour de tous les journaux en leur demandant un par un s'ils ont parlé de la quadrature du net entre-temps, par exemple. Ce qu'on faisait, hein, à l'époque, on a fait ça. Hein, on était une équipe, on était un peu plus de 5, on s'était répartis les principaux journaux à vérifier tous les jours. On a vraiment essayé. Une fois qu'on a repéré les articles, eh bien, on les met dans une file d'attente pour pouvoir les sélectionner, éliminer ceux qui sont finalement pas bons ou redondants. Et puis, une fois qu'on sait lesquels on veut publier, il faut encore importer le contenu dans le site web de l'association. Et ça se traduit par un formulaire qui crée une page sur le site et on fait copier-coller du titre, copier-coller de l'extrait, de l'auteur, de la date, du lien. Et ça, c'est un travail qui se révèle fastidieux quand on a une dizaine d'articles à faire par jour. Ça prend un temps non négligeable. Or, grâce à Métapresse, on peut simplifier toutes ces étapes. On peut faire une recherche qui va être, par l'outil, propagée à tous les médias connus. Il y a actuellement 125 sources, donc plus d'une centaine de sources, et la plupart sont des grands médias internationaux. Les résultats, on va se les retrouver par ordre chronologique, donc on peut voir ce qu'il y a de nouveau depuis la précédente fois, la fois d'avant qu'on a fait une recherche. Vous êtes encore là, pardon?
Oui, on t'entend.
Puis, une fois qu'on a repéré les articles qui nous plaisent, il est possible d'activer un mode de sélection des articles qui nous plaisent. Et alors là, des cases à cocher apparaissent et on choisit ceux qu'on a vraiment envie de publier et qui ne sont pas redondants et qui sont pertinents. Et à partir du moment où on a cette sélection, on peut demander à exporter la sélection dans plusieurs formats standards, par exemple le format RSS. Et alors, l'extension fait télécharger par le navigateur un flux RSS qui arrive comme fichier sur le disque dur de l'utilisateur. Ce flux RSS, on peut le réimporter, on peut l'envoyer par mail, mais on peut tout simplement aller sur son site web, par exemple un WordPress qui, comme flux d'articles, prend en entrée un flux RSS et lui dire « importe mes 4 nouveaux articles en RSS ». Et là, on a bien factorisé le nombre de clics parce qu'on a juste sélectionné, exporté, réimporté, et on n'a pas à reprendre les informations une par une pour tout le détail. Ça gagne beaucoup de temps, ça.
D'accord. L'explication est très claire. Est-ce que tu as déjà des stats d'utilisation depuis le lancement donc de cette version 1.0?
Oui. Alors, je précise que moi, dans le code que j'ai fait, c'est entièrement décentralisé et tout se passe seulement sur l'ordinateur de l'utilisateur entre son navigateur web et les journaux qui l'interrogent. Je ne sais rien de ce qui est cherché. Ce n'est pas la main sur le cœur, je vous promets que je ne vous espionne pas. Ça n'est pas possible. Toutefois, quand on installe une extension dans son navigateur Firefox, Mozilla collecte des statistiques d'utilisation. Et donc, Mozilla me dit qu'il y a plus de 2000 personnes en 3 mois qui ont téléchargé l'extension pour commencer. Et Mozilla me dit qu'il y a à peu près 800 personnes qui l'utilisent chaque jour. Alors, ils disent qu'ils utilisent chaque jour. Il me semblerait plus logique d'imaginer que Mozilla collecte le nombre d'utilisateurs qui ont cette extension sur leur navigateur et qui utilisent leur navigateur. Je ne pense pas que ce soit vraiment le nombre de personnes qui cliquent sur l'icône et font des recherches. Mais ça, il faudrait leur demander à eux.
D'accord. Quelles sont depuis que tu as lancé, quelles sont les nouveautés, en quelques mots, et puis les pistes d'amélioration principales que tu vois ?
Eh bien, j'étais très content de l'ensemble de fonctionnalités de la version 1.0 et je me disais que j'allais pouvoir me reposer un peu après ça. Et en fait, il y a eu un travail intense et bien plus important depuis cette mise en ligne que sur les phases précédentes, parce que c'est très stimulant d'avoir des utilisateurs, parce que du coup, j'ai des retours constructifs et des idées nouvelles de fonctionnalités. Dans les toutes dernières nouveautés, suite à un retour de mon papa, j'ai changé le fonctionnement du filtrage des journaux, parce qu'on ne cherche pas dans les 120 journaux à chaque coup. On peut chercher seulement dans les journaux qui sont dans sa langue ou qui couvrent son pays ou qui sont en HTTPS, si on veut un niveau de chiffrement. Et puis, il y a deux grandes familles de journaux qui se distinguent. Ceux qui permettent de faire une recherche avec un « et » logique entre les termes, la quadrature du net, et qui ne vont pas me renvoyer tout ce qui contient le net ou la quadrature du cercle. Et ceux qui n'arrivent pas à ce niveau-là et qui, malheureusement, comme par exemple Mediapart en France, qui pourra sûrement améliorer ce point-là, si on fait une recherche sur la quadrature du net, on a plein de bouillies et pas ce qu'on veut. Un cas courant et intéressant, c'est aussi chercher sur rivière Mayenne. Il y a plein de rivières. La Mayenne, ça peut être une ville, un département ou une rivière. Et on voit tout de suite si on a les résultats qui ne correspondent que au croisement, à l'intersection des champs, des mots-clés donnés. Et donc, parmi les nouveautés, il y a le fait que maintenant, par défaut, quand on installe l'extension, on fait des recherches avec un « et » logique entre les mots. Et c'est le fonctionnement auquel on pourrait s'attendre.
Oui, par défaut.
Par défaut, voilà. Donc, il y a eu ça. J'ai ajouté des formats d'import-export et d'autres arriveront.
Oui, plein de choses vont ajouter. J'ai une petite question technique avant de passer à ma dernière question sur le financement. Tu dis qu'il y a des sources de journaux, donc il y a 120 sources de journaux. Est-ce qu'une personne qui a installé l'extension peut rajouter ses propres sources de journaux ?
Oui, c'était une des contraintes que je m'étais fixée dès le départ, que ce soit le plus ouvert possible, que tout le monde puisse contribuer et que je ne sois pas le maître des usages de l'extension. Si quelqu'un veut se servir de l'extension pour rechercher autre chose que ce qui m'intéresse avec la quadrature du net, eh bien c'est possible. Et c'est précisément la première chose qui est arrivée. Le premier contributeur qui a dit hey, « je voudrais améliorer ça », lui, ce qu'il voulait, c'était chercher des articles de presse scientifique. Et donc, on a travaillé avec lui pour ajouter une dizaine de sources qui sont de la presse scientifique. Aujourd'hui, en installant MetaPress, vous pouvez choisir dans quelle source vous cherchez par type de source. Et alors, vous trouverez de la presse, des radios, de la presse de référence, parce qu'il y a cette classification qui existe sur Wikipédia et que je suis. Et il y a aussi de la presse scientifique. Vous pouvez ne chercher que dans des sites de publication ouvertes, en tout cas lisibles sur Internet et sans abonnement, de publications scientifiques.
D'accord.
L'avantage avec toute cette construction de... Comment dire, tout ce jeu de d'étiquetage des sources, c'est que tous les cas d'usage devront pouvoir rentrer dedans. Si quelqu'un veut chercher dans des encyclopédies ou autre chose, j'ai été contacté par quelqu'un qui veut utiliser l'outil dans son CDI, parce qu'il y a un outil qui s'appelle EasyDoc et qui permet à tous les centres de documentation, là, des collèges de France, d'avoir accès à une espèce d'encyclopédie avec des résultats accessibles en ligne. Et donc, je vais lui rajouter sa source dans l'outil pour qu'il puisse proposer et les résultats de cette encyclopédie-là précise, et des résultats de journaux pour être sûr qu'il y ait toujours des résultats qui arrivent, parce que l'inconvénient de EasyDoc, c'est que si on n'écrit pas exactement ce qu'il faut, les résultats ne viennent pas, et c'est décourageant pour les enfants.
D'accord.
Donc très souple, possibilité de l'utiliser, et possibilité d'ajouter des sources depuis l'extension elle-même. Aller dans les paramètres de l'extension, il y a tout plein d'explications pour l'instant en anglais, mais ça viendra dans d'autres langues, il est possible d'ajouter une source soi-même en local pour la tester directement depuis les paramètres de l'extension. C'est quelques, il y a une description, il faut donner le nom, il faut donner l'adresse de la recherche, et puis le moyen de sélectionner les différents champs, comme le titre, la date et tout ce dont je parlais, le moyen de sélectionner ça dans la page de résultats du journal. Il y a de la documentation, il y a même une documentation en français complète sur le site de l'extension, metapresse.es, meta-presse.es, qui explique comment ajouter de nouvelles sources. J'encourage les gens à le faire, j'ai le travaillé le plus possible pour que même des peu informaticiens puissent s'atteler à la tâche. Et ça fonctionne pas trop mal, puisque déjà plus de 10% de ces sources sont contribuées. C'est pas moi qui ai tout fait.
Super. En 30 secondes, parce que le temps file, Simon, partie financement, tu en as parlé au tout début. Quelles sont les pistes pour le financement de ce projet? Mais vraiment en 30 secondes.
Alors pour la suite du financement, puisque la WoHolland Foundation a déjà permis à tout ça d'avoir lieu, pour la suite du financement, je suis ouvert à toute contribution, à toute proposition. J'ai refait des demandes auprès de certains organismes et il y a encore la NLNet qui est en lice et qui a posé des questions pertinentes sur le projet et demande comment ça serait dépensé. Et donc ça devrait fonctionner comme ça. Toutefois, voilà, moi je suis ingénieur en informatique, je suis gérant d'une SS2L et je serais ravi de faire ça plutôt qu'autre chose si en effet il y avait des sources de financement qui se révèlent.
D'accord.
Et il y a le bouton.
Je
suis à la radio. Quand on installe une extension de Firefox, il y a un beau bouton bleu dans la colonne de gauche qui est contribuer. Si vous voulez vous-même, à votre échelle, m'aider à contribuer, à passer une demi-journée à bosser sur le projet, cliquez sur le bouton de contribution sur le magasin d'extension de Firefox sur le site de Mozilla.
Bah écoute, Simon, parfait. Et puis on encourage les gens déjà à l'installer, le tester, rajouter des sources et évidemment te soutenir si les personnes le souhaitent. On rappelle, donc c'est l'extension par Firefox MetaPress. Donc vous cherchez dans le magasin d'applications, enfin d'extension de Firefox, vous le trouvez et vous l'installez. Simon, je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission.
Merci, à bientôt. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Night de Claude Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
93.1.
Nous venons d'écouter Night de Claude Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Je précise qu'aujourd'hui, les pauses musicales, c'est une spéciale au bout du fil. En effet, pour les pauses musicales de Libre à vous, j'utilise souvent le site auboutdufil.com. On y trouve des musiques sympas et sous différentes licences Creative Commons pour la plupart. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'usage du logiciel libre au collège avec le retour d'expérience de trois profs de collège, justement. Alors, en studio, Louis-Maurice de Souza, professeur de technologie donc en collège. Bonjour Louis-Maurice.
Bonjour.
Également en studio, Laurent Joetz, professeur lui aussi de technologie en collège. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et par téléphone, Sébastien Canet, enseignant de technologie en collège. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors, n'hésitez pas, les personnes qui écoutent l'émission, à nous rejoindre sur le salon web, sur le site causecommune.fm, bouton de chat et salon dièse libre à vous. Vous pourrez réagir, poser des questions ou faire des commentaires. Je suis le salon tout en animant l'émission. Alors, l'objectif de l'émission du jour, et c'est peut-être qu'une seule première émission, parce que le sujet d'éducation et même en collège est très très large, c'est de faire un petit peu un retour d'expérience de personnes qui enseignent donc en collège et notamment sur la partie logiciel libre, mais on parlera peut-être aussi un petit peu de matériel. Alors ma première question elle va être liée par rapport à l'objectif du programme de technologie en collège. Je lisais sur un site ce matin, en technologie, le programme de collège vise l'appropriation par chaque élève d'une culture qui fera d'eux des personnes éclairées et responsables de l'usage des technologies et des enjeux associés. C'est l'objectif du programme de collège de technologie en collège. Donc ma première question à chacun des personnes invitées, pourquoi est-ce important d'avoir recours au libre, donc que ce soit le logiciel libre, que ce soit des ressources éducatives libres, dans ce cadre d'éducation au collège? Alors on va laisser la parole à Sébastien Canet, celui qui est au téléphone, qui est le... Voilà, est-ce que Sébastien, tu veux expliquer pourquoi, selon toi, c'est important de recourir à l'usage des logiciels libres dans le cadre de ce programme?
Eh bien, parce que je pense qu'il y a une partie qui consiste à former aussi les élèves à devenir des citoyens éclairés. Enfin, pour moi, c'est plutôt dans les citoyens éclairés de savoir comment fonctionne un système. C'est-à-dire que c'est pas tant le modèle économique, je pense, dans la critique du programme. C'est surtout de comprendre ce qu'il est possible de faire, de comprendre qu'il y a un code source, qu'il y a des possibilités d'y contribuer, qu'il y a une forme de culture qui a la capacité d'appropriation. Et je pense que dans l'idée, c'est aussi de permettre un peu la continuité vers ce qu'il y a aussi en lycée maintenant avec une nouvelle option informatique, où l'idée c'est de faire comprendre aux élèves quelle est la mécanique derrière le système qu'ils utilisent. Et donc, sur les logiciels libres, quand on veut ouvrir, c'est montrer qu'il y a des alternatives et que ce n'est pas simplement lié au meilleur slogan publicitaire. Et donc, pour moi, l'intérêt, en tant qu'éducateur, c'est évidemment de leur permettre d'avoir les équivalents logiciels entre ce dont ils disposent chez eux et ce dont nous disposons dans l'établissement.
Ah, ça, c'est un point important. Oui, vas-y, continue.
Comment ?
Non, j'ai dit que c'était un point important ce que tu citais sur la disponibilité à la fois chez soi et en école des mêmes outils, ce qui est une des forces du logiciel libre.
Oui, c'est ce pourquoi je travaille sur les logiciels libres depuis le début de ma carrière. C'est permettre en fait aux enfants de s'affranchir de toute frontière ou de tout blocage. C'est-à-dire que un peu comme je laisse la porte de ma salle ouverte, voilà, moi je suis en train de faire autre chose ou de ranger mes stocks, il n'y a pas de problème, quelqu'un vient, allume l'ordinateur et il peut continuer son travail en attendant ses copains qui finissent un peu plus tard ou parce qu'il attend, enfin je ne sais quelle raison, mais en fait l'idée c'est qu'il n'y ait pas non plus de blocage d'un point de vue pragmatique d'enseignant, c'est-à-dire que s'il y a un travail qui est à rattraper, un travail qui est à finir ou qu'ils ont envie de l'améliorer ou pour quelque raison que ce soit, il n'y a plus de blocage puisque le logiciel ou même la version de LibreOffice que j'ai d'installer au collège sera la même que les parents pourront installer sur leur ordinateur chez eux ou bien que l'élève pourra prendre sur une clé en version portable.
D'accord. Donc, en studio, je suis sûr que Louis-Maurice de Souza veut réagir, ou en tout cas compléter peut-être en donnant son avis par rapport à cette raison d'utiliser des logiciels libres, enfin ces raisons.
Non, compléter, il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est un enjeu essentiel. Par contre, je ne retrouve pas tellement ces attendus dans ce que sont aujourd'hui les programmes de technologie. Ils ont plutôt tendance à promouvoir l'industrialisation, un modèle économique d'entreprise. Voilà. Et donc, après, c'est un enjeu citoyen essentiel et tout ce qu'a dit Sébastien est vrai. C'est-à-dire qu'il y a obligation d'utiliser des logiciels libres pour pouvoir poursuivre le travail à la maison, pour être libre d'utiliser telle ou telle application. Ça donne un apprentissage, ça donne une compréhension des outils que ne font pas les logiciels privateurs, qui enferment dans des usages particuliers qui sont ceux de l'intérêt de l'entreprise et qui ne donnent pas les moyens à chaque utilisateur de comprendre comment ça fonctionne vraiment.
Alors, je vais laisser la parole à Laurent, mais j'ai une question. Est-ce que par rapport à ce que tu dis, Louis-Maurice, finalement, le logiciel propre privateur, on apprend des compétences, mais dédiées à un logiciel, là où les logiciels libres font apprendre des compétences beaucoup plus larges et une connaissance beaucoup plus large, à la fois de l'outil, mais aussi du fonctionnement même de l'outil pour éventuellement pouvoir ensuite se l'approprier complètement. Laurent Jouetz.
C'est ça qui est compliqué, en fait, parce que... Moi, quand j'ai commencé à enseigner cette matière, la technologie, parce qu'on est trois profs de techno, on étudiait l'entreprise, etc. À l'époque, je me souviens, on essayait de faire attention, de choisir des exemples, de nommer des entreprises, mais pas une seule, de faire attention, de multiplier les exemples et de ne pas se focaliser sur une entreprise, par exemple, parce qu'on ne fait pas de publicité dans l'éducation nationale, ça me paraît évident. Et par rapport à toute cette évolution et beaucoup, beaucoup d'évolutions concernant l'utilisation des logiciels qu'on avait moins il y a 20 ans, eh bien maintenant, très clairement, faut pas se leurrer. Hein, les postes, ils sont tous sous Windows. Dans les établissements, les profs, l'essentiel des profs qui sont pas franchement branchés logiciels libres, ils utilisent Word. Pour eux, c'est normal. Et en réalité, il y a tellement d'alternatives. C'est un problème moi aussi. Alors, ce que Sébastien Canet, que je salue au passage parce qu'on le verra peut-être plus tard à l'émission, j'utilise son travail et je le remercie beaucoup. Je pense que on a envie maintenant de développer ça. Ah mince, j'ai perdu le fil. Vas-y, Maurice, ça va me revenir.
Maurice va reprendre ton fil, va reprendre le temps que tu retrouves le fil.
En fait, je voulais donner un petit exemple. À la suite des mouvements de grève et de protestation qui ont eu lieu entre décembre et janvier avec la réforme des retraites, j'ai eu l'occasion de croiser de jeunes collègues. Et donc, ils ont tous un smartphone. Ils utilisent tous un ordinateur. Et quand on leur parle d'utiliser un certain nombre d'outils numériques, la première chose qu'ils disent, c'est « mais j'y comprends rien ». Et en fait, ils sont tous usagers sans rien comprendre de ce qui se passe. Et pourtant, ce sont des collègues qui sont nés avec. C'est-à-dire ils ont 25 ans, 26 ans, et du coup, ils sont arrivés ils ont appris à utiliser l'ordinateur depuis longtemps. Ils l'ont vu à l'école, ce qui n'est pas mon cas. Les entreprises qui sont dans le marché du numérique font en sorte que les gens soient ignorants. Et quand on se tourne vers le logiciel libre, on arrive à casser ça parce que il y a rien qui est fait dans l'utilisation des logiciels qui soit conçu pour que ce soit pas compréhensible. Et un dernier petit exemple que j'utilise souvent, parce que moi j'ai commencé à utiliser Windows et j'ai progressivement abandonné le logiciel privateur jusqu'à abandonner complètement Windows il y a plus de 10 ans maintenant, 15 ans. Dans Word, pour changer le format de la page, il faut aller dans le menu fichier. C'est absurde. Tous les gens apprennent donc cette procédure qu'il faut passer par le menu fichier pour passer par exemple de format portrait en paysage. Et donc ils apprennent ça. Et quand on les fait passer à LibreOffice ou OpenOffice il y a quelques années, ils vont dans le menu fichier pour chercher cette même fonctionnalité et ils ne la trouvent pas. Et donc ils sont bloqués parce qu'en fait, ils ont appris cette procédure. Et on retrouve ça dans tout un tas de fonctionnements des logiciels privateurs. On est contraint d'apprendre des procédures. Il y a des années et des années, je dépannais mon épouse par téléphone sans voir l'écran. Aujourd'hui que j'utilise plus de logiciels privateurs, je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas besoin de retenir des procédures. Et les gens sont enfermés, la plupart des gens sont aujourd'hui enfermés dans des procédures.
D'accord. Laurent Jouetz.
Oui, pour revenir sur mon idée de tout à l'heure, quand je parlais d'éviter de faire de la publicité dans l'éducation, ben, en fait, c'est un peu la même chose maintenant. Pourquoi on utilise un logiciel d'une entreprise privatrice dans la plupart des établissements scolaires? C'est en fait pas normal. On ne devrait pas, l'éducation nationale ne devrait pas avoir à faire ça. Ça me paraît complètement... c'est une évolution pour moi qui est complètement aberrante. En tout cas, moi, quand j'ai été formé en tant que prof, on ne faisait pas comme ça, quoi. C'est une évolution que je constate et qui est vraiment étonnante. Il y a un autre point, alors par rapport à ce que Sébastien Canet a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un autre élément important qui est l'utilisation des formats ouverts. Pour moi, c'est essentiel. Hein. Mes cours, je les fais tous sous LibreOffice. Il n'est pas question pour moi d'utiliser un format qui ne soit pas forcément lisible chez les élèves, parce que c'est une question d'égalité, en fait. Pour moi, les documents que je fournis aux élèves, tout le monde doit être capable de l'utiliser, peu importe l'outil qu'il a à la maison.
Alors justement, sur cette question des formats ouverts, je vais repasser la parole à Sébastien Canet, excusez-moi, mais ça me fait penser à ce que tu racontes, me fait penser à une expérience personnelle. Une fois, ma fille qui est au téléphone avec une de ses copines de classe et qui s'excuse presque que de lui envoyer un document sous LibreOffice parce que voilà. Et je lui ai dit, mais non, tu n'as pas à t'excuser. Pas du tout. Et donc, Sébastien Canet, j'ai deux questions. Mais la première, ça va être peut-être définir un petit peu ce qu'est un format ouvert, parce que Laurent Jouetz l'a introduit. Puis la deuxième question, mais qui sera plus collective, c'est justement, là vous décrivez une situation qui est quand même pas très joyeuse, c'est quelle méthode vous utilisez pour sensibiliser vos collègues, mais aussi les jeunes qui arrivent aux enjeux du logiciel libre. Et après on passera au logiciel utilisé. Donc voilà, donc Sébastien Canet, précise un petit peu ce que sont les formats ouverts, et puis toi, dans ton quotidien, quelle méthode ou quelle stratégie utilises-tu pour sensibiliser aux enjeux du libre ?
Eh ben, je rebondis juste en fait sur l'exemple là des logiciels privatifs. Une des façons de sensibiliser, c'est un petit peu, je pense, ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 avec l'essor des Fab Labs et du Do It Yourself, dans la mesure où on va plutôt solliciter finalement les gens à apprendre à réparer par eux-mêmes l'outillage plutôt qu'à les rendre dépendants d'un système de réparation qu'ils ne contrôlent pas. Un petit peu, tout ça, je pense que c'est un environnement très global actuellement, hein, qui est en train de se développer, un petit peu comme les notions d'obsolescence programmée qui sont maintenant connues de tout le monde. Et donc, dans programmer, il y a aussi donc la capacité à modifier le code dans le microcontrôleur de l'imprimante pour pouvoir la relancer plutôt que de subir le fait que le fabricant ait dit votre imprimante, elle tombera en panne au bout de 5000 copies. Il y a aussi quand même des éléments matériels derrière cette idée-là. Et c'est vrai que, par exemple, un garagiste actuellement est coincé parce que le fabricant Peugeot ou Renault va lui empêcher d'accéder en fait à la réinitialisation. Il faudra qu'il achète le bon reprogrammateur pour qu'une fois qu'il ait fait la réparation de votre voiture, grâce au programmateur Peugeot, qu'il puisse reprogrammer la Peugeot et la faire redémarrer. Il y a en fait ces notions de privatifs ou commerciaux au final, puisqu'en fait c'est une... Juste pour finir cette partie-là avant que je réponde à la question, c'est de se dire que dans l'aspect privatif, c'est une capacité à rendre commercial quelque chose qui ne l'est pas. En empêchant, je reprends mon exemple du garagiste qui va finir sa réparation en l'empêchant de le faire de façon autonome, le fournisseur de matériel arrive à monnayer quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un service ni d'un bien. Le service, c'est le garagiste qui le rend, la plus-value, c'est lui. Et là, d'un seul coup, on se met à monnayer ce que moi, je définirais presque comme du racket au final, parce qu'on l'empêche de faire autrement. Et quelque part, quand vous recevez un document qui est en docx, qui n'est pas lisible par autre chose que... Enfin, le pire, c'était l'exemple de publisher, par exemple, que seul publisher arrivait à lire. On rentre quasiment dans un système d'une forme de pas de malhonnêteté, mais de séquestration un petit peu en obligeant l'utilisateur à n'utiliser que le logiciel. Et je pense que dans ce genre d'information ou de vulgarisation de l'information, c'est un des points qu'on peut faire comprendre à des collègues dans l'enjeu, je dirais pas dans une bataille commerciale, mais dans le fait d'être prisonnier de quelque chose ou bien d'être dans quelque chose qui est plus pérenne, parce que le code source, et là je vais répondre plutôt au fait qu'un format ouvert fait que la façon dont est encodée l'information est consultable. Je peux savoir exactement comment l'information de mon fichier traitement de texte dans LibreOffice a été encodé par LibreOffice. J'ai accès à toute la mécanique. Ce qui fait que si jamais un jour LibreOffice disparaît, je peux utiliser cette partie du code source pour, dans mon traitement de texte à moi, recréer un traitement de texte qui peut rouvrir des fichiers traitement de texte LibreOffice dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que là, la façon dont on va prendre Word, hein, dont Word encode les fichiers docx, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc pour l'ouvrir, soit il faut payer une licence et donc accéder à cette technologie-là, soit de façon empirique, essayer de faire du reverse engineering et essayer de l'ouvrir, auquel cas on est un peu en conflit d'intérêt avec celui qui possède la licence sur cette technologie-là. Donc c'est un des enjeux, je pense, avec les collègues, c'est le côté pérenne de se dire que, par exemple, un document enregistré en Word 2013 mais a du mal à s'ouvrir correctement par un Word de 2019.
D'accord.
Donc ça fait partie des petits points qui vont permettre, en fait, je pense, moi, ce que je fais maintenant avec les collègues, c'est un aspect très pragmatique, hein. C'est-à-dire, dans ta vie de tous les jours, LibreOffice se met à jour, c'est hyper bien, t'as accès aux nouvelles technologies sans payer de licence, t'as pas besoin de te poser la question, est-ce que tu pirates, est-ce que tu achètes une nouvelle licence. Les élèves, eux, seront très contents d'utiliser ça, et puis les parents, ça va les soulager plutôt que de se poser des questions. Voilà, ça donne vraiment pour moi, c'est une forme d'ouverture. Et en fait, c'est la question de l'interopérabilité aussi qui va être derrière, c'est-à-dire que dans ton exemple de dire la petite qui s'excuse de l'avoir fait avec tel logiciel, non, au contraire, un logiciel LibreOffice, je peux, au contraire, je peux être fier et assumer de faire que mon fichier LibreOffice, je peux le passer à n'importe qui. N'importe qui peut l'ouvrir.
Tout à fait.
S'il n'est pas implémenté dans le traitement texte, c'est que la personne n'a pas voulu ou n'a pas eu le temps encore de l'implémenter dans le traitement texte. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui avait été lancé, juste pour rebondir sur le Conseil national du numérique qui avait fait un grand tour de France à un moment et qui avait donné des recommandations à l'éducation nationale, dont les recommandations ont peu ou prou pas été suivies, de donner l'impulsion vers le logiciel libre. Et il y avait une recommandation que je trouvais très intéressante, qui était de favoriser, en fait, de faire en sorte que des logiciels pour l'éducation soient développés par une boîte informatique qui serait payée par l'éducation, que sous des formats ouverts, comme ça, si on change de prestataire, ça change, et qui aurait permis, comme l'avait fait la gendarmerie en améliorant LibreOffice, on aurait pu avoir du coup une équipe d'informaticiens qui aurait pu, grâce à l'investissement de l'éducation nationale, implémenter plein de fonctions nouvelles dans LibreOffice et faire booster, parce que c'est aussi un autre point, grâce au code source que l'éducation nationale aurait pu payer, le remettre dans le pot commun de LibreOffice, qui d'un seul coup aurait pu exploser en version 7 ou en version 8 grâce à ça.
D'accord. Louis-Maurice veut réagir, et puis après je vais vous relancer justement sur ces recommandations. Louis-Maurice de Souza.
Oui, sur les formats ouverts, il y a un autre problème que pourtant beaucoup d'utilisateurs ont connu, c'est qu'on n'a aucune garantie sur la pérennité du logiciel lui-même. C'est-à-dire que les professeurs de technologie ont vu disparaître Works, par exemple, et donc tous leurs documents qu'ils avaient pu créer avec ça. Moi, j'utilise principalement LaTeX. LaTeX a été développée au début des années 80. Aujourd'hui, on peut reprendre un document fait en 84 et le compiler à nouveau. C'est pas le cas des logiciels faits avec PageMaker, avec Works, avec Publisher, avec les différentes versions de Photoshop. Enfin voilà, c'est un paramètre assez important. Et concernant aussi les problèmes de format. La plupart des utilisateurs parlent de format LibreOffice ou format OpenOffice, mais il n'y a pas de format LibreOffice. Le format, c'est Open Document. Et c'est le seul format standard. DocX n'est pas un format standard. Et donc, de parler du format, et il y a d'autres logiciels que LibreOffice qui sont en capacité de lire le format Open Document. Malheureusement, la société Microsoft ne fait pas ça de façon naturelle et spontanée, alors qu'elle pourrait techniquement très bien le faire. Donc, il y a des enjeux économiques. On met en avant les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises au détriment de toute la population. Et avant le petit tour de France
du Conseil national du numérique,
il y avait eu la circulaire Hérault
2012,
ouais, qui était extrêmement explicite et qui n'a donné lieu à absolument rien dans l'éducation nationale ou dans le reste de la fonction publique.
Alors, on va revenir sur cette question-là, parce que c'était ma question justement juste d'après, mais je vais peut-être laisser Laurent Jouette, s'il veut compléter sur la partie un petit peu avec la stratégie pour sensibiliser les collègues et puis aussi les jeunes, tout simplement, à ces questions-là.
Alors, cette question, elle tombe sur moi, et s'il y a des collègues qui écoutent, ça va les faire rigoler, parce que en fait, il n'y a pas de secret. Alors moi, je suis professeur de technologie dans l'établissement, je suis aussi référent numérique, et en fait, c'est par mon exemple auprès des collègues que j'arrive à petit à petit faire passer des messages. En étant absolument intransigeant sur les documents que j'accepte, moi, ce que j'envoie. Alors, c'est vrai, très souvent, on passe pour un libriste forcené, ça, c'est très clair. On en rigole, et puis les collègues, ils le savent, ça fait longtemps qu'on se connaît pour beaucoup d'entre eux, et ils savent. Et du coup, petit à petit, on fait ça en rigolant, et puis ils commencent à réfléchir, et puis, mon ordinateur sous Windows, il marche plus bien, ça coûte cher, qu'est-ce que je pourrais faire? Et moi, j'ai toujours dit aux collègues, écoute, les ordinateurs sous Windows, c'est pas dur, je n'y touche pas, point. Par contre, si tu veux migrer sous Linux, là, je te passe mon temps, le temps nécessaire à t'aider, il n'y a aucun problème. Et j'ai réussi à... J'aime pas le mot convertir, parce que c'est... ça me convient pas. Mais j'ai fait évoluer des gens, autant dans les usages que dans les pratiques, et par rapport aussi au matériel qu'ils utilisent et au logiciel qu'ils utilisent, par mon exemple, je pense.
D'accord, l'exemple c'est souvent la meilleure chose. Je vais revenir sur ce que disait Sébastien Canet, donc notamment sur le Tour de France du Conseil national numérique. Louis-Maurice de Souza citait la circulaire Héro de 2012 qui encourageait, ou en tout cas qui expliquait comment utiliser le logiciel libre dans les administrations. Et donc plus globalement ma question, et je rebondis sur la question sur le salon web donc de Marie-Odile, alors qui pose plein de questions, qui fait plein de remarques, mais qui notamment demande ce qu'en pensent les chefs d'établissement. Donc moi je vais élargir, qu'en pense la hiérarchie, quelle politique ministérielle il y a depuis toutes ces années par rapport au logiciel libre, au logiciel privateur. J'ai l'impression à vous entendre que c'est quand même morne pleine, c'est-à-dire que c'est d'une tristesse incroyable. Je regarde Marie-Maurice qui me regarde. Voilà, malgré tous ces encouragements, il y a eu récemment, à la fin de l'année 2019, le débat pour projet de loi dans l'école de la confiance où des amendements visant à mettre en place une priorité au logiciel libre ont été déposés, ont été combattus par le gouvernement. Donc voilà, quelle est la situation aujourd'hui de la hiérarchie et de la politique ministérielle? On va d'abord commencer par Sébastien Canet parce qu'il est au téléphone, et ensuite Laurent Jouette et Louis-Maurice de Souza. Sébastien Canet.
Moi j'aurais tendance à, de ce que je vois quand même depuis un paquet d'années, malgré toutes les tentatives et puis même justement en allant vraiment relativement loin en termes de recommandations, puisque ça ne reste que de ça, c'est-à-dire aussi bien par la circulaire Héro que pour une information, une petite ligne dans un bout de programme de SNT pour le lycée ou de collège ou de technologie collège quelque part qui va arriver à se glisser dans les programmes. Globalement, rien n'est fait dans cette logique-là. Par exemple, tous les sujets de concours où l'administration est vent debout pour continuer à utiliser les produits de chez Microsoft. Il y a une incapacité après à changer les habitudes parce qu'ils connaissent le raccourci clavier de machin ou de bidule, qui fait qu'en fait on se retrouve avec un blocage, qui fait que, comme de toute façon il n'y a aucune réelle volonté politique derrière de l'assurer, donc on reste dans un quiproquo, on aimerait bien que, mais au final faites comme vous voulez, et puis ils se réfugient derrière la sacro-sainte autonomie de l'établissement. Ça, c'est le truc fourre-tout qui permet de faire passer tout et n'importe quoi en disant « bon, c'est bien, débrouillez-vous dans votre coin ». Et du coup, au final, en fait, on est au point mort, voire même, du coup, quand on essaie de se lancer dans des systèmes libres, moi, il a fallu, en fait, sur mon académie, là où je suis allé le plus loin, c'est une station en Windows, parce que les serveurs du Conseil Général sont du Windows, donc pour avoir accès un petit peu à la maintenance, malheureusement, il a fallu que je maintienne ça comme système d'exploitation, et avec dessus tout un pack de logiciels libres ou gratuits qui permettaient de fonctionner. Mais en tout cas, imaginez un serveur Linux, par exemple, ce qu'on m'a très clairement expliqué au département, c'est que c'était hors de question parce qu'il fallait former les techniciens et que les prestataires de services pour faire l'entretien du parc informatique ne sont pas formés. Donc comme ils ne sont pas formés, point de non-recevoir, on reste sur quelque chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire du Windows. ministériellement, il n'y a pas, puisqu'on est quand même depuis un paquet de temps dans quelque chose qui est complètement dans la libre entreprise libérale et utiliser toute la fonction publique comme la vache à lait nationale. Je ne vais pas tortiller, hein, je pense que les collègues sur le plateau seront d'accord. Donc à partir du moment où on peut avoir un modèle payant que l'administration va arroser, pour eux, ça fait tourner une roue économique. Et c'était ce que je n'avais pas compris, en fait, par exemple, des collectivités. On heurte, en fait, entre la volonté de certains élus et le fait que le devoir ou l'engagement des collectivités, c'est d'avoir un périmètre géographique dont l'économie tourne bien. Donc même si le Conseil général voulait embaucher des informaticiens, ils ne le feront pas parce que dans l'idée, il faut payer des entreprises et avoir des entreprises dynamiques qui vont fonctionner. Alors que ça coûterait moins cher d'avoir une entreprise d'informaticiens qui bosse pour le Conseil général, ça coûterait moins cher, ce serait plus efficace, eh bien il vaut mieux des prestataires de services pour faire tourner une roue artificiellement économique. Et donc les points pour moi, c'est rien du tout au final, voire même on se fait retoquer ou traiter de rigolo parce qu'on va mettre en avant des logiciels libres. Moi, le pire truc, c'est quand même que j'ai eu de la part de la direction académique du numérique un jour un mail où on me rétorque en me disant « Mais de toute façon, les logiciels libres, ce n'est pas sérieux. » Mais moi, je lui ai répondu « Mais tu crois que l'ENT académique, derrière, c'est quoi ? C'est des serveurs Apache ? » C'est-à-dire, c'est des serveurs avec des langages qui sont libres, des serveurs avec des systèmes d'exploitation qui sont libres. Quand on voit tes mails, le serveur qui contient les mails, c'est un système qui est libre. Et oser dire ça que, alors qu'on envoie un mail par Internet qui repose que sur des serveurs en Linux, on dit les logiciels libres, c'est pas sérieux. On se retrouve dans un contresens absolu. Mais je pense qu'on a pas du tout les volontés politiques pour mettre quoi que ce soit en place.
D'accord. Je vais passer la parole à Laurent Jouette. C'est juste avant, juste rappeler aux gens qui pensent que le chip, c'est pas sérieux, que sans logiciel libre, il n'y aurait pas d'Internet tel qu'on le connaît. Laurent Jouette.
Alors, pour rebondir justement là-dessus, il y a quand même des trucs positifs dans ce domaine-là. Moi, je travaille dans une cité scolaire, donc j'enseigne la technologie en collège, mais en fait, j'enseigne aussi SNT en lycée, en seconde, cette nouvelle matière-là donc, que tu évoquais.
SNT, et c'est sciences
numériques et technologies, voilà. Nouvelle matière en seconde, où justement, dans le programme, on étudie les protocoles réseau, tout ce genre de choses-là. Et donc, forcément, c'est important pour moi d'ouvrir l'esprit des élèves. En seconde, ils commencent à comprendre un peu comment ça marche. Ils se disent « Ah bah ouais, c'est le moment de placer du libre, en fait, hein, pour nous. » Et là, ils comprennent que l'importance que ça a. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je suis dans un établissement un peu particulier. Pour reprendre, on cherchait des exemples d'usage. Alors moi, je pense que les chefs d'établissement, ils sont complètement surchargés de boulot en ce moment. Ça, c'est très clair. Hein. Ils ont la tête sous l'eau et ça va pas aller en s'arrangeant, je pense. Ils ont de plus en plus de responsabilités à gérer localement. Et leur demander de changer leurs habitudes, il n'y a pas de secret. Hein. Ils ont eu l'habitude d'utiliser Word, Excel, etc. On leur demande de faire les tableaux pour les répartitions horaires et tout ça. Les fichiers, ils ont des formules dans Excel. Ils ne vont pas s'amuser à tout rechanger dans LibreOffice parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement, à mon avis. Donc ça, c'est le premier point. Et puis un exemple, j'essaye de synthétiser un peu, d'aller assez rapidement, mais un exemple de ce que l'institution peut faire de complètement fou par rapport à ces histoires de format. Nous, on accueille des élèves porteurs de handicap moteur qui composent notamment au lycée pour les E3C, parce que c'est de l'actualité, sur E3C. Ordinateur. Alors les E3C, c'est les épreuves anticipées du bac. Donc c'est ces jours-ci, on en entend parler. Et alors nous, notre lycée, il n'est pas bloqué. Et on doit gérer le fait que ces élèves, ils doivent composer sur ordinateur. On a donc des nouveaux systèmes de copies de bac qu'on doit scanner afin qu'elles soient corrigées après numériquement par les enseignants. Et quand les élèves, ils composent sur ordinateur, il faut qu'ils composent sur une copie qui est formatée, en fait, hein, pour qu'on puisse, c'est complètement débile, la scanner. Après, on doit l'imprimer et la scanner. Bon, OK. Ces fichiers-là, le SIEC, alors le SIEC, je ne sais pas ce que c'est la maison des examens qui organise ça, fournit un fichier .docx. Voilà, je crois qu'on a tout résumé.
Avant la pause musicale, Louis Maurice de Souza, tu voulais réagir ? Ou tu préfères une question ?
Non. En fait, il faut comprendre que l'État est absent de cette histoire, puisque avec la décentralisation, les établissements scolaires dépendent maintenant des collectivités. Donc les collèges dépendent des départements et les lycées dépendent des régions. Et donc c'est progressivement, les collectivités prennent le contrôle de tout le matériel dans les établissements scolaires. Et donc, on est effectivement, comme disait Sébastien, dans un dogme libéral où c'est l'entreprise qui va tout résoudre, même s'ils sont très majoritairement incompétents. Ils ne savent pas ce que c'est que le métier d'enseignant, ils ne connaissent pas les besoins des enseignants, ils savent déployer du Windows et ça s'arrête là. Et donc, dans le meilleur des cas, ils interviennent de façon très, très incomplète et insuffisante dans les établissements scolaires. Un bon exemple, c'est l'ENT. Tout à l'heure, on parlait de ne pas faire de publicité dans les établissements scolaires. Dans le département des Yvelines, quand on utilise la messagerie de l'ENT, on a une jolie publicité pour Microsoft Outlook. On a une jolie interface qui effleure bon les années 90. Et on a un outil qui est complètement inutilisable.
Laurent, pas juste grave. Avant la pause musicale, vas-y.
Tout n'est pas complètement noir.
Et justement, après la pause musicale, on va parler de choses plus belles, mais vas-y.
L'ENT de la région Île-de-France pour les lycées, donc de toute l'Île-de-France, ouais. C'est basé sur OpenENT, qui est une solution libre quand même.
Exactement. On va parler de la partie positive après, justement, après la pause musicale. Pour se remettre un peu de toutes ces mauvaises nouvelles, on va écouter Crazy par Anozira. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune. Oh,
Nous venons d'écouter Crazy par Anozira, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes en train de discuter de la place du logiciel libre dans le collège, ou plutôt des difficultés au niveau hiérarchique et ministériel, donc avec nos invités Laurent Joëtz, Louis-Maurice De Souza et Sébastien Canet, tous trois professeurs de technologie. Dans cette seconde partie de l'émission, qui sera plus courte que la première, parce qu'ils sont passionnants, mais le temps avance, nous allons parler des côtés un peu plus positifs, quand même, parce qu'on a parlé beaucoup des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et donc ma question de retour, et je vais commencer par Laurent Joëtz et puis après Sébastien Canet, quels outils utilisez-vous dans le cadre donc, de vos programmes de collège? Alors outils au sens large, hein, ça peut être logiciel, mais aussi ça peut être du matériel ou des ressources libres au sens large, on va dire. Donc Laurent Joëtz.
Bien, bah, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on utilise LibreOffice déjà, hein. C'est un bon début. Ensuite, alors pas uniquement dans ma matière, mais dans notre établissement, on a une salle d'art plastique qui est équipée de clients Debian, sur lesquels on a...
Alors Debian, c'est un système d'exploitation libre.
Voilà, sur lesquels on utilise des logiciels comme Inkscape, alors GIMP ou JIMP, je sais jamais comment on dit.
Ça peut être The GIMP. Voilà. Alors Inkscape, c'est pour The GIMP, c'est pour la retouche d'image. Et Inkscape,
exactement,
c'est un dessin image vectoriel, voilà. Dessin vectoriel.
Et on a Krita aussi qui est déployé, et puis un équivalent au célèbre Paint nullissime de Microsoft qui s'appelle Pinta, qui est vraiment génial, et qui est en plus multiplateforme, donc on peut même l'installer sur un client Windows. Donc ça, c'est pour les arts plastiques. En technologie, bah, évidemment, j'utilise en modélisation 3D FreeCAD plutôt que des alternatives qui coûtent très cher et qui sont privatrices. Pourquoi ? Parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, les élèves peuvent l'installer chez eux et s'entraîner. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça, c'est l'égalité dont je parlais tout à l'heure. J'utilise aussi, alors j'ai pas mal d'élèves dyslexiques et donc j'utilise des polices de caractère libre qui facilitent la lecture. Alors on pourra mettre des liens, je pense, sur la page.
Alors sur la page de l'April et causecommune.fm, on mettra une page avec toutes les références que nous avons citées.
Et ensuite, bah, en robotique, j'organise moi des combats de robots sumo dans mon établissement. C'est à base d'Arduino et j'utilise un super outil qui s'appelle Blockly Arduino. Et comme ça, Sébastien Canet va pouvoir enchaîner là-dessus. Merci.
Alors, je passe la parole à Sébastien Canet qui, je suppose, connaît bien ce dont tu viens de citer, de parler. Sébastien Canet.
Oui. Eh bien, merci. Je suis toujours content de savoir que quelqu'un utilise mon logiciel. Ça me fait plaisir. Tant mieux s'il y a des enfants à qui... ça permet de démarrer. C'est un logiciel du coup que je développe depuis un paquet d'années maintenant, je dois bien faire 5 ans, puisqu'il nous manquait des briques sur les programmations de cartes électroniques de type Arduino. C'était à l'époque beaucoup de lignes de code, un peu dans le côté bidouille, et puis comme les logiciels libres, ça démarrait pas, c'était plutôt des bidouilleurs dans leur coin et qu'il n'y avait pas de logiciel satisfaisant, bah, au bout d'un moment, je me remontais les manches et puis c'est parti, quoi.
Sébastien, est-ce que tu peux juste redonner le nom du logiciel, parce que
Il s'appelle Blockly Arduino et en fait, j'avais fait une boulette quand je l'ai nommé parce que l'on m'a dit que j'ai mis le arrobase à la place du A. Voilà, et bah, comme il est devenu multilingue et qu'il a été publié, j'ai encore reçu une traduction en catalan ce week-end et que ça se diffuse partout, c'est aussi l'intérêt du libre, c'est que quand ça marche, on a plein de contributeurs qui ont permis à ce logiciel-là de complètement exploser. Mais du coup, à l'international, le arrobase est un peu pénible à lire. Alors nous, on glisse dessus, donc ça fait Blockly Arduino, mais en fait, pour des anglais saxons, le A devient le AT, donc c'est pas...
D'accord.
Bon, dans la prochaine version, je ferai mieux. Voilà.
Et est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à quoi peut servir une carte électronique comme Arduino dans le cadre du programme de techno?
Alors moi, la façon dont je le prends par rapport au programme, c'est dans la programmation des cartes électroniques avec un microcontrôleur qui va permettre de rendre la carte autonome, donc avec une petite puce qui va contenir le programme et l'exécuter. L'intérêt, c'est de montrer aussi aux élèves que l'on peut construire des systèmes autonomes. Et après, c'est libre à l'enseignant de trouver un support qui puisse être motivant pour les enfants. Il y a des combats de robots sumo, il y a des collègues qui faisaient des choses avec des textiles. Donc pour moi, j'avais fait quelque chose qui était lié au spectacle avec une troupe de musiciens déambulants. Donc montrer que voilà, ça peut servir à tout et n'importe quoi d'une certaine façon. Et pour que les petites cartes Arduino qui soient dans le grand public, qui servent aussi par exemple à piloter une imprimante 3D, mais ça peut piloter un système de surveillance de sa serre ou de n'importe quel système. En fait, il n'y avait pas de logiciel accessible pour les enfants, et à l'époque il y avait Scratch, le petit logiciel de programmation avec le chat orange très connu qui est utilisé depuis l'école primaire. Donc je suis reparti des recettes qui marchaient pour que lorsque les enfants utilisent des blocs, c'est graphique, c'est visuel, c'est facile de prise en main, et ça permet ensuite, derrière chaque instruction qui est graphique, que le code soit généré automatiquement. Voilà.
D'accord.
Voilà le but de ce logiciel-là, c'est de permettre à des débutants de 8 à 80 ans, puisque c'est le cas, j'ai eu des utilisateurs de retraités au Fab Lab qui venaient, qui s'en sont servis pour démarrer, et des ateliers avec des enfants de 8 ans dessus.
Et aujourd'hui, si on veut commander un kit Arduino, c'est quoi ? C'est de l'ordre de 80-100 euros, si je me souviens bien ?
Non, ça dépend entièrement de ce que l'on veut. La carte seule de départ officielle Arduino, donc a subi les contrôles de qualité qui permettaient d'assurer qu'elle soit robuste, c'est 20 euros la carte.
D'accord.
Ça doit être à 17 peut-être maintenant. Et puis après, en gros, c'est si je fais le parallèle, alors ça va faire marrer mes collègues de techno, parce que j'imagine qu'ils font peut-être un peu ça, c'est que la carte, c'est que le cerveau. S'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, ça, il se passe rien. Donc du coup, si vous voulez un capteur ou si les gens veulent un petit moteur, il faut acheter le moteur en plus.
D'accord.
Donc voilà, on n'est pas obligé d'acheter un kit qui est très complet avec plein de trucs. Il y a des sociétés qui font des kits de découverte avec juste quelques éléments, et puis qui permettent après de racheter d'autres compléments et qui permet à chacun de s'initier morceau par morceau.
D'accord. Louis-Maurice de Souza, de ton côté, quel logiciel utilise, quel outil sur dans le cadre du programme de techno?
Avec les élèves, j'utilise Debian, le système Debian. Donc tu parlais tout à l'heure de stratégie. Moi, ma stratégie, c'est d'être pas du tout œcuménique et de faire aucun effort dès qu'on me propose des documents qui sont pas lisibles, que je peux pas lire. Donc j'utilise dans ma salle de Debian, j'utilise FreeCAD pour le dessin, Cura pour l'impression 3D, Arduino et ArduBlock. J'utilise la tech avec les élèves. Et en lieu et place de Scratch, j'utilise Snap, qui est une application équivalente, mais qui a l'avantage de fonctionner en ligne, qui nécessite qu'un navigateur. Il n'y a pas de. Pour les élèves, chez eux, c'est plus simple. Et j'utilise aussi un projet que je trouve absolument fabuleux et d'une intelligence rare, qui s'appelle UnoHost. Et donc, je propose des services en ligne aux élèves. Donc, moi, pour l'instant, j'utilise principalement Nextcloud et DocuWiki.
Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est UnoHost ?
UnoHost, c'est un projet qui a été lancé en partenariat avec la Quadrature du Net, je crois.
Non, je crois pas, mais...
Enfin, où ils sont partie prenante avec la brique Internet. Et donc, qui est un projet d'auto-hébergement. Et donc, l'intelligence incroyable de ce projet, c'est qu'il fédère tout un tas d'applications en ligne libres. Et donc, une fois qu'on a sa plateforme UnoHost, on dispose d'un serveur de messagerie, d'un serveur de chat. Et après, on peut rajouter des applications en ligne, donc des applications de cloud, des applications de wiki, de pad, un peu tout ce qu'a développé Framasoft autour de son opération dégooglisons Internet. Ils n'ont pas tout à gérer, quoi. C'est-à-dire que quand Nextcloud évolue, on bénéficie des évolutions de Nextcloud. Et puis voilà.
Donc les services sont déjà installés, sont déjà packagés, il n'y a pas besoin de le faire manuellement comme on pourrait le faire.
C'est comme un magasin d'applications pour les téléphones portables, et on choisit ce qu'on veut dans la liste.
Et je précise que tu viens de parler de Nextcloud, on va parler de Nextcloud le 18 février. On a une émission consacrée à ça. Et YouNost ou YouNost, en fonction de la façon dont on le prononce, on a une émission prévue, mais je ne sais pas quand, en mars ou en avril. Et je précise aussi que LibreOffice, on a déjà consacré une émission, donc vous retrouvez les podcasts sur april.org, sur causecommune.fm. Scratch aussi, on en a déjà parlé. Le temps passe très vite, je surveille l'heure. J'aimerais savoir quel est le retour que vous avez des ou l'accueil que vous avez des élèves quand vous leur expliquez que c'est des logiciels libres ou que vous leur présentez en général des outils sans forcément leur expliquer d'ailleurs que c'est du logiciel libre. Quel est l'accueil des élèves, Laurent Jouetz?
Bah, globalement, ils sont en général assez contents de se dire « Ah, super, le logiciel qu'on a, on a utilisé en classe, je vais pouvoir l'installer chez moi, je vais pouvoir m'entraîner à l'utiliser. Hein, » C'est le cas notamment avec la modélisation 3D avec FreeCAD, parce que c'est pas simple à prendre en main, faut s'entraîner, c'est pas avec l'heure et demie hebdomadaire qu'on va arriver à faire quelque chose de rapidement efficace. Donc ça, c'est vraiment un énorme atout et ils en sont bien conscients. Ensuite, moi, j'ai l'exemple de quelques élèves qui sont bah, évidemment quelques-uns un peu plus geeks que les autres, qui viennent me voir et puis qui me disent « Ah, moi, je sais que votre ordinateur, il est pas sous Windows, j'aimerais bien apprendre, vous pouvez m'expliquer, me montrer ?» Et voilà, ça commence comme ça et ça, c'est les meilleurs retours. Voilà.
Sébastien Canet, quel est le retour de tes élèves?
Eh ben, ils sont très bons et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que on se retrouve quoi dans le pour certains qui sont un petit peu dans le côté geek au sens de vouloir comprendre aller plus loin que la surface des choses. Ça fait hyper plaisir quand ils posent des questions et qu'ils voient qu'en fait comme on maîtrise derrière et qu'il leur manque des interlocuteurs, bah là ils sont juste hyper contents d'avoir quelqu'un qui leur dit puis il y a ça et puis après il y a ça. Et en fait, c'est le problème de la connaissance qui sollicite tout le temps des questions vers une nouvelle connaissance et ainsi de suite. Donc c'est génial, ça les flatte vachement. Et moi, l'intérêt de la solution, ce que j'avais essayé de favoriser au maximum, c'était des logiciels portables, c'est-à-dire que l'on peut les copier sur une clé USB, les lancer depuis la clé USB ou bien les copier sur n'importe quel autre ordi. Il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin de droit administrateur ni rien. Et la portabilité, ça m'a vraiment aidé à donner de la... Enfin, les élèves ont senti une forme de plus-value, et notamment ils se sont sentis, maîtriser, et puis un peu faire les grands, en fait, chez eux. Parce qu'ils les ont emmenés chez eux, les logiciels. Et donc, il y a aussi les retours des parents qui ont vu que les enfants ne sont plus simplement des utilisateurs ou consommateurs d'un logiciel, ou simplement utilisateurs avec des procédures toutes faites, mais que d'un seul coup... Les enfants étaient allés plus loin dans l'appropriation finalement que les parents au départ. Et un autre écho du coup pour les parents, ce qui était très rigolo, moi, c'est quand je me suis mis à utiliser le logiciel de modélisation de maison qui s'appelle Sweet Home 3D, qui est un logiciel libre multiplateforme. Et alors là, avec plusieurs collègues, quand on a lancé ça avec les programmes, on a tous eu des retours de parents qui étaient aux réunions parents France qui nous expliquaient « Ah, mais c'est hyper bien, au fait, le logiciel que vous avez donné, j'ai refait les plans de scie, ça nous a permis de ça. Et après, en fait, par effet de bord, ça permet de contaminer par effet positif, en fait. »
D'accord. Je vais faire un dernier tour de table. Alors, ça me faisait sourire aussi Sweet Home 3D parce que c'est un des logiciels que ma fille m'a montré il y a quelques années quand elle avait je sais plus quel projet. Effectivement, c'est un projet génial. Et alors j'avais peut-être une question, mais alors en réponse rapide, Sébastien, j'ai assisté il y a quelques années à des coding goûtés, donc où des enfants apprenaient avec les parents à coder. Et il y avait un truc qui était magique, c'était quand les enfants montraient ce qu'ils avaient fait à leurs parents. Est-ce que vous avez des retours comme ça d'élèves qui vous ont dit « j'ai montré ça à mes parents, ils étaient fiers de moi ». Ou en tout cas, ils étaient impressionnés.
C'est pas directement par les élèves, c'est souvent les parents qu'on voit qui vont nous dire qu'ils sont lancés à faire quelque chose ou que les enfants leur ont montré ce qu'ils ont pu faire et que ça leur a donné envie de participer ensemble. Moi, j'ai longtemps essayé de mener des ateliers où j'en ai très peu mené des ateliers où j'ai réussi à imposer en inscription un parent et un enfant, donc à deux sur l'ordinateur.
D'accord.
Mais quand je l'ai fait, ça marche vraiment très très bien parce que les processus de raisonnement ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand vous lancez une question ouverte, le résultat est absolument génial.
D'accord. On va faire le dernier tour de table. On va commencer par Laurent Jouetz. Alors, ma dernière de tour de table, excusez-moi, c'est pas une question. C'est si vous avez envie de dire quelque chose ou un appel à lancer ou des annonces à faire. Mais rapidement, on va commencer par Laurent Jouetz.
Là, je voulais juste rebondir sur ce qui vient de dire Sébastien Canet sur les retours des élèves. Nous, on a des ateliers en sixième où on appelle ça usage du numérique. et on utilise Scratch, et puis on s'est amusé à animer avec Scratch une fable de La Fontaine qu'ils ont étudiée en français, et les élèves, ils vont montrer ça au prof de français après, qui connaît pas Scratch, parce que le prof de français, il se dit pas ah ben moi je vais faire du Scratch en classe avec mes gamins, et ils adorent montrer ce qu'ils savent faire. Justement, ça c'est un vrai super retour des élèves vers leur enseignant. En plus, c'est étonnant dans ce sens-là. Et puis, pour conclure, en ce qui me concerne, moi, dans mon établissement, j'aime bien dire que, en fait, je suis le poil à gratter numérique, un peu libriste, certes, mais voilà, qui essaye de faire réfléchir sur les usages, autant pour les collègues que pour les élèves.
D'accord. Louis-Maurice de Souza, un dernier mot à ajouter ?
Que c'est un enjeu majeur de société, et qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de l'État, ni des collectivités, ni des politiques, et qu'il faut se battre pied à pied sur le terrain au jour le jour.
Sébastien Canet, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Bah, je suis entièrement d'accord sur le côté politique, et que du coup, ce qui serait juste génial, c'est qu'on arriverait, si on pouvait arriver, nous aussi, libristes, à essayer de fédérer nos forces pour vraiment prendre en considération le fait qu'il y a une bataille à mener, c'est une bataille sociétale, culturelle, pour que ça existe. Et au lieu que chacun réinvente l'eau tiède dans son coin, si on arrivait à mettre un peu d'énergie derrière, par exemple, je reprends l'exemple de LibreOffice, parce que c'est celui que tout le monde connaît, mais c'est vrai que LibreOffice, sont pas les logiciels libres tournent avec très peu de personnes. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. C'est que les personnes qui contribuent sur leur temps libre ou autre, ou qui seraient payées un petit peu, il n'y a pas beaucoup de gens derrière chacun des gros projets que nous utilisons tous. Et moi, ce que j'arrive à faire, c'est à faire que les associations dans lesquelles je suis fassent des dons aussi pour permettre aux fondations de maintenir les logiciels libres, peut-être pour payer d'autres programmeurs ou développeurs. Mais c'est vrai que si au moins les gens qui contribuaient au libre prenaient un petit peu plus conscience qu'il y a une bataille à mener, ça aiderait aussi à faire grossir des logiciels qui retomberaient dans le pot commun et permettraient à tout à chacun d'en profiter.
Écoute, c'est une belle conclusion. Je précise qu'on va consacrer quelques émissions à venir sur la question du financement des projets libres, les projets grand public et les projets plus peut-être orienté professionnel, parce que le financement n'est pas forcément le même. En tout cas, je tiens vraiment à remercier nos trois intervenants qui ont été passionnants, donc Laurent Joëtz, Louis-Maurice de Souza et Sébastien Canet. Et évidemment, on reparlera de ce sujet-là, alors que ce soit dans le domaine du collège ou peut-être primaire ou peut-être dans le secteur du supérieur. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée à tous les trois. Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Merci.
On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Déstabilized par Punch Deck. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Destable Z par Punch Deck, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partager est bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Alors, bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Le sujet du jour, les raisons d'écrire du logiciel libre.
Alors en effet, c'est un texte de Richard Matthew Stallman de 2009. Et je dirais pour commencer que ce texte n'a pas une structure classique, comme on pourrait l'attendre d'autres textes de Richard Stallman qui sont plus démonstratifs, qui sont plus déductifs. Celui-ci a une structure d'énumération. C'est un catalogue et comme le titre l'indique, raison au pluriel d'écrire des logiciels libres va aller de motivations très humanistes, très larges, vers des motivations qui sont plus élémentaires, plus primaires et plus liées à soi. Alors je vais faire deux remarques préalables. Lorsqu'on cherche des raisons d'écrire du logiciel libre, lorsqu'on veut les examiner, il me semble qu'on s'inscrit dans le cadre d'une prise d'autonomie, non seulement de l'utilisateur, mais du concepteur de logiciel. C'est-à-dire qu'on essaie, puisqu'on s'approche de certains motifs, de ne pas s'en remettre simplement à des impératifs qui seraient extérieurs, qui décideraient de tout, mais de construire pour soi-même des motivations intérieures qui, dès lors, sont fortes, puisqu'on se les est appropriées. Alors, deuxième remarque, je dirais qu'il y a un caractère non exhaustif de cette liste, puisque, à la fin du texte, Richard Stallman indique que tous les humains sont différents, et donc il admet qu'il a très bien pu oublier un motif. Et là, c'est très simple. Si quelqu'un a idée d'un autre motif, il suffit qu'il envoie un courriel au site des campagnes de gnu.org. Et là, Richard Stallman indique que si ce qui est proposé est pertinent et utile, alors il sera souhaitable que ce motif soit ajouté. Je commence par le premier point. Il porte sur le plaisir que cette construction peut procurer. Il y a un ressenti qui est positif et qui est lié à deux éléments. Alors souvent, de très bons programmeurs éprouvent une jubilation. Ils sont dans une joie d'avoir réalisé un outil qui est porteur d'autonomie. Ceci est déjà une récompense en soi. Comme mon métier est d'enseigner la philosophie, je vais me référer à un philosophe du XVIIe siècle qui s'appelle Spinoza. Dans l'éthique de Spinoza, il est indiqué que ce ressenti n'est pas anodin, la joie d'avoir construit quelque chose. Pourquoi ? Parce que plus je suis joyeux, plus j'ai envie de m'investir avec succès dans d'autres entreprises, comme ceci témoigne d'un enthousiasme, plus j'y parviens, plus j'y réussis, donc plus je suis joyeux, plus je m'investis, etc. C'est-à-dire qu'il y a un caractère exponentiel de la joie. Et donc celui qui a plaisir à réaliser pour sa propre autonomie ce qui va développer l'autonomie des autres, et dans cette dynamique positive d'existence. Et donc ce ressenti, alors ça c'est le deuxième point sur lequel insiste Richard Stallman, ce ressenti est encore plus vivace quand il n'y a pas, je cite, de chef pour vous dire quoi faire. Et c'est le plaisir d'être son propre maître. Le second point reprend une notion qui est très fondamentale dans la philosophie GNU. Le second point, c'est l'idéalisme politique. Alors cette expression est proche d'une expression qui est celle d'idéalisme pragmatique, qui est intervenue très tôt dans la philosophie gnou. Que veut dire idéalisme politique? Déjà, que veut dire idéalisme? Idéalisme désigne une attitude qui veut faire prévaloir ce qui devrait être sur ce qui est. Bon, c'est-à-dire que lorsque le réel est décevant, lorsque le réel n'est pas enthousiasmant, il est important de vouloir le modifier, le transfigurer en écrivant des logiciels libres. La troisième raison, et je cite à nouveau le texte, le désir de bâtir un monde de liberté et d'aider les utilisateurs du logiciel à échapper au pouvoir des développeurs de logiciels rend joyeux. Quel point à partir de celui-là, comme il y a cette joie, on pourrait se demander si le véritable motif n'est pas celui d'être admiré. Après tout, est-ce qu'il n'est pas légitime pour quelqu'un qui écrit du logiciel libre d'avoir ce bénéfice secondaire qui est l'admiration de ceux qui vont utiliser ce qu'il a fait? Alors, Richard Stallman ne méconnaît pas l'importance de la reconnaissance, de ce que peut apporter la satisfaction de ceux à qui on a rendu service, ce qui donne une autre dimension du plaisir dont il a parlé avant, donc ce plaisir d'être libriste. Je cite le texte, « Si vous écrivez un logiciel libre et populaire, les utilisateurs vous admireront, c'est une sensation très agréable. » Et comme la vie est courte, autant, en effet, si on est libriste, ne jamais se priver de ce plaisir-là. Alors, on s'aperçoit qu'on va du plus humaniste vers des motivations qui sont progressivement plus étroites. Par exemple, le point 4, c'est celui de la réputation professionnelle. Si vous écrivez un logiciel utile et populaire, cela suffira à montrer que vous êtes un bon programmeur. Donc il y a ici un critère d'évaluation qui est l'utilité sociale, qui manifeste une habileté. On peut, en effet, par la réputation professionnelle, être persuadé d'avoir un certain savoir-faire, ce qui, là encore, donne dans la vie une certaine assise, un certain contentement de soi. Le cinquième point est dans la droite ligne du précédent, parce que s'il y a une réputation professionnelle, ça manifeste une appartenance à la communauté. Ça, c'est le point 5. Comme il y a un rayonnement, comme il y a une réputation, alors ceci permet de se dire qu'on fait partie d'une communauté, que l'on va collaborer, que l'on va partager ce qu'on a réalisé avec son intellect, avec ses mains, avec tout son être. Le sixième point, c'est l'éducation. Et je dirais l'éducation de soi. C'est l'occasion d'augmenter considérablement vos capacités techniques et vos habiletés sociales. Donc il s'agit de grandir, il s'agit soi-même de devenir meilleur programmeur, meilleur, pas simplement au sens technique, mais meilleur au sens où on fait du bien à soi et aussi aux autres. Le septième point, la gratitude. Si on écrit des logiciels libres, ceci permet de rendre ce qu'on a reçu. Vous vous sentez reconnaissant et redevable envers les développeurs des outils que vous avez utilisés, c'est pour vous le moyen de rendre l'appareil. Donc on s'inscrit bien dans des échanges sociaux, ce qui nous a permis de devenir plus forts dans notre humanité, va pouvoir être amélioré par nous, ce qui est une manière de manifester un contre-don, de répondre au don qu'on a reçu. Alors il y a un huitième point qui est bien intéressant et que Richard Stallman écrit avec un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il se demande si la haine de Microsoft est un motif pour écrire du logiciel libre. Alors, il précise que cette motivation négative est à considérer avec précaution. Alors, je me permets de me référer à nouveau à l'éthique de Spinoza. Si on parle de haine, que peut-il se passer ? La haine amène souvent à se replier sur soi. Et comme se replier sur soi rend malheureux, et comme se replier sur soi amène à la haine, finalement, plus on déteste, plus on se replie sur soi, plus on est dans la détestation, etc. C'est-à-dire que là, on entre dans une dynamique négative d'existence, ce qui amène, et je pense que cette démarche est très rationnelle, à ce qui amène Richard Stallman, donc l'auteur de ce texte, à dire qu'il est, plutôt que la haine de Microsoft, il est préférable de se demander quels sont les méfaits des GAFA en général, au lieu de se contenter de pester contre eux. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'étudier ce de quoi il s'agit ? Alors, je vais plus vite sur la neuvième motivation, l'argent, parce qu'effectivement, hein, il faut rappeler que libre ne veut pas dire gratuit. Donc, ce motif est à l'avant-dernière place. C'est-à-dire qu'on peut bien être payé pour développer du logiciel libre. Ceci n'est pas contradictoire. Le dernier motif qui va consister à dire que ceci revient à améliorer un programme que l'on utilise soi-même. Donc c'est peut-être le motif le plus égoïste. Mais en tout cas, peut-être que vouloir améliorer ce qu'on utilise soi-même donne idée de comment améliorer pour les autres ce qu'on utilise aussi soi-même. Alors, je dirais, pour conclure, si tu veux bien, Fred, merci au logiciel libre d'élargir notre vision. Parce que si on regarde bien, les 10 raisons invoquées pour écrire du logiciel libre vont d'une vision large vers des raisons plus étroites, mais qui ne demandent qu'à grandir. Et donc je dirais merci au logiciel libre d'avoir fait grandir nos raisons d'écrire du code. On pourrait par exemple décliner une formule de Lessig qui est « code is law » en « code is education » puisque écrire du logiciel libre fait grandir par définition puisque contribuer au logiciel libre amène à dépasser son propre horizon, aller vers les autres, s'ouvrir.
Merci Véronique. C'était la chronique de Véronique Bonnet, donc Partagé est bon. Vous retrouverez l'article dont il est question sur le site de GNU, donc gnu.org. L'émission se termine. Nous nous retrouverons donc en direct mardi 11 février. Notre sujet principal portera sur Agorasso, une plateforme participative mise à disposition des associations pour ouvrir leur gouvernance et co-construire leur action et basée sur le logiciel libre Decidim. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.